Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Et ce matin, l'instant M trouve les mots pour le rire.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Pouvait-il imaginer que ça tournerait comme ça? Si des proches avaient soupçonné qu'on le citerait sans cesse, à tort et à travers, pour prouver qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire, aurait-il ralenti les blagues sur les juifs et le cancer? Sûrement pas. Mais on est en droit d'imaginer que ça aurait attisé sa hargne, sa colère et son courroux coucou. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que Pierre Desproges est mort. France Inter lui rend hommage et c'est l'occasion de s'interroger sur l'humour à la télé et à la radio. D'où vient cette idée de règne du politiquement correct? Les codes ont-ils vraiment changé? Existe-t-il un rire médiatique qui serait différent de celui de la vraie vie? En somme, Pierre Desproges a-t-il bon dos?
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Dorothée Barba.
Bonjour Alain Vaillant.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter, spécialiste de l'humour. Voilà une casquette qui fait un effet bœuf. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 10. Vous êtes l'auteur aux éditions du CNRS d'un livre intitulé « La civilisation du rire ». Alors, si vous m'autorisez à parler trivialement, est-ce que c'est pas un peu casse-gueule d'intellectualiser l'humour ?
Oui, sans doute, mais c'était pas mon propos. D'ailleurs, à vrai dire, je suis spécialiste de littérature et du romantisme.
De Baudelaire,
à l'origine.
Avant tout.
De Baudelaire, effectivement. Et je pense que quand j'étais enfant et adolescent, le rire me passionnait. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était pas sérieux de travailler sur cet objet. Et puis j'ai travaillé sur le rire chez Hugo, Baudelaire, Flaubert, etc. Donc en réalité, j'ai cessé d'être sérieux. Voilà la réponse à votre question.
D'ailleurs, vous l'écrivez dans votre livre, c'est pas une spécialité universitaire, l'humour.
Non, non.
D'ailleurs, c'est dommage.
Je crois que je ne suis pas sûr que ce soit dommage à vrai dire.
Allez, on revient dans un instant sur cette idée d'un rire médiatique. Ce sera juste après quelques mots sur l'actualité des médias. Télé 7 jours et Elle sont à vendre et pourraient bien être cédés à un groupe tchèque. Lagardère annonce ce matin avoir engagé des négociations exclusives avec le groupe de presse tchèque Media Invest en vue de la vente de certains titres et notamment donc Elle, fondée en 45. La marque Elle n'est pas à vendre, ce qui permet à Lagardère de garder la main sur toutes les versions du magazine à l'étranger. Sont aussi concernés par cette négociation Version Femina, France Dimanche, Ici Paris et Public. Le groupe ne garderait dans le secteur des médias que Paris Match et le journal du dimanche. Peut-être l'avez-vous constaté, il était très compliqué d'acheter un journal hier à Lyon, Dijon, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Nancy ou Nantes. Pas de quotidiens nationaux hier dans les kiosques, conséquence d'un mouvement de grève chez Presstalis, l'entreprise de distribution des journaux, qui a annoncé en février un plan social qui pourrait entraîner la suppression de 200 à 300 postes, soit un quart des effectifs. Et c'est donc la journée Pierre Desproges sur France Inter avec ce soir une grande soirée. On va notamment revivre le tribunal des flagrants délires. C'est Charline Vanhoenacker qui met la robe de Claude Villers. Alain Vaillant et... Oui, Claude Villers. Alain Vaillant est mon invité, enseignant-chercheur à l'Université Paris 10 Nanterre, auteur de La civilisation du rire. Une archive d'abord, un extrait du tribunal justement, réquisitoire contre Patrick Poivre d'Arvor.
Mais quel chef-d'œuvre ! Quel chef-d'œuvre ! Jamais nous ne remercierons assez Patrick Fais-voir aussi la moutarde dans le filet pour son livre dont au sujet de son talent duquel la littérature française elle serait pas été pareille si qui serait pas été publié. Les enfants de l'aube nous content l'histoire d'un adolescent leucémique qui rencontre dans un hôpital à leucémique une jeune anglaise leucémique.
Et il ajoute ensuite que le style est tout aussi leucémique. PPDA était bien présent ce jour-là en studio Alain Vaillant. Il assiste à ce réquisitoire hilarant et cruel. L'humour français est-il aussi méchant qu'avant? Et y a-t-il lieu d'ailleurs de parler d'un avant?
Oui, je crois qu'il faut être prudent pour tout ce qui est variation historique du rire. Le rire est quelque chose d'absolument essentiel, d'anthropologique, de primitif, etc. Et globalement, le rire, c'est toujours une agressivité qui ne va pas jusqu'au bout. C'est un jeu avec ce qui pourrait être agressif, soit que l'agression vienne de l'extérieur, soit qu'il vienne de soi-même, comme le fait des proches à l'égard de PPDA. Donc selon les époques, effectivement, l'humour est probablement plus ou moins agressif. Ça dépend des circonstances historiques. Ce qui est particulier à notre époque, c'est que d'une part, l'humour est devenu un produit de consommation de masse. Il y a une massification de l'humour. Desproges appartient plutôt à une sphère, je dirais, intellectuelle, parisienne, de contestation, qui est une grande tradition française. Maintenant, nous avons de la consommation de masse et il y a des phénomènes de lissage culturel dans la massification, comme toujours.
Donc il y a un rôle important des médias dans la transformation de l'humour.
Dans la transformation, dans la production de l'humour. L'humour moderne naît dans les pays occidentaux avec la presse au 18e, au 19e siècle. Donc les médias se transforment, mais je dirais que l'humour en tant que pratique culturelle, identifiable et consubstantielle aux médias.
Alors on connaît le point Godwin, hein, ce moment dans une conversation où l'on brandit Hitler comme argument. Quel regard portez-vous, Alain Vaillant, sur le point Desproges qui intervient en général dans tous les débats sur l'humour, ce moment où quelqu'un dit « Desproges ne pourrait plus faire les mêmes blagues aujourd'hui ».
D'abord, Desproges était réellement un génie du rire. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la dimension personnelle. Moi, dans la tradition française, j'en vois deux de ce niveau-là, c'est Alphonse Allais et Desproges, et qui ont tous les deux transfiguré la pratique du rire. Pour ce qui est de cette méchanceté du rire, encore une fois, ça dépend des époques. Je dirais que la méchanceté du rire dépend de la méchanceté ambiante. Enfin, le moment Desproges des années 70-80, c'est le moment après les années 60, après une période de la Ve République qui est considérée comme conservatrice, plus ou moins répressive moralement, il y a eu évidemment les phénomènes de contestation politique. Donc le rire a une signification de contestation forte que probablement il n'a plus aujourd'hui, enfin en tout cas pas de façon si claire, peut-être dans quelques années, quand on fera le bilan de la période que l'on traverse, mais voilà, ce sont des évolutions. Lorsqu'on a le sentiment d'être dans une ambiance libérale, le rire s'assouplit en quelque sorte.
L'humour est devenu plus tiède, moins contestataire.
Ce sont des alternances, oui, je pense globalement, mais ça n'a rien de grave ni de définitif, et dans le passé il y a eu ces mêmes phénomène d'alternance.
La question est aussi celle de la récupération, Alain Vaillant. Est-ce que ceux qui utilisent Desproges aujourd'hui pour prouver qu'on ne peut plus rien dire font un contresens ?
On fait toujours du contresens avec les généralités. Et, bon, par exemple, la société s'est libéralisée et le rire donc n'a plus cette même fonction de combat. Mais prenez par exemple dans les années 70 où il y avait énormément de plaisanteries par exemple sur les homosexuels, parce que l'homosexualité n'était pas une chose évidente ni acceptée. Aujourd'hui elle l'est et on fait moins de plaisanteries sur l'homosexualité. Est-ce qu'on a gagné ou perdu? C'est à chacun de mesurer. Je pense que le rire est moins méchant aujourd'hui parce que probablement, des choses positives se sont passées aussi dans la société.
Un sujet de plaisanterie parmi d'autres, hein, tenait les relations entre les hommes et les femmes. On se souvient de la façon dont Tex a été licencié de France 2 après une blague sur les violences conjugales. Plus récemment, les plaisanteries autour du 8 mars ont remis le sujet sur la table. Écoutez la journaliste Nadia Dame sur le plateau de Yann Barthès.
Monsieur Poulpe, humoriste qui a tweeté aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Du coup, je vais me masturber en pensant à chacune d'entre vous. Et je vais commencer par la lettre A. Quel genre de porc c'est?
C'est un comique.
Ça n'est pas drôle. Et on peut
c'est
faire
un.
Non, mais on peut avoir le débat sur est-ce qu'on peut rire de tout, etc. Mais juste symboliquement, juste le 8 mars, ferme ta gueule, s'il te plaît.
Existe-t-il vraiment, comme on l'entend souvent, un rire avec et un rire contre, Alain Vaillant?
Le rire est toujours avec et contre. On a besoin de rire avec quelqu'un. Le rire est un phénomène de connivence. Et c'est drôle parce que l'on rit contre quelqu'un d'autre. Alors ensuite, la question est de savoir si on rit avec 10 milliards de personnes contre une personne, c'est très méchant. C'est une question de rapport de force entre le contre et avec. Mais le rire est toujours méchant d'un côté et gentil de l'autre. Alors si on aime bien ceux contre qui s'exerce le rire, on le trouve très méchant. Et pas l'inverse. Lorsque Coluche plaisantait méchamment sur les flics dans les années 80, globalement, on trouvait ça très drôle. Mais son rire n'était pas plus gentil ni plus méchant que d'autres rires qui s'adressent à d'autres catégories de personnes aujourd'hui.
On est bien là dans la fonction essentielle du rire qui est de mettre le réel à distance.
Le réel à distance, ou plutôt mettre à distance le danger que représente le réel. Le rire est un jeu avec la réalité. elle reconnaît la réalité, c'est pourquoi le rire est lié au réalisme, mais en même temps, elle décide de ne pas en avoir peur. Et donc, elle le met à distance. Et donc, c'est dans ce double mouvement de mise à distance, on peut dire que l'humoriste, quelquefois, ne reconnaît pas la gravité des choses, s'il le fait, mais à sa manière. Il y a une ambivalence fondamentale du rire, et il faut la reconnaître, autrement, on n'accepte pas le rire dans sa fonction culturelle et essentielle.
La forme d'humour qui prend toute la place aujourd'hui dans les médias, vous l'écrivez dans votre livre, Alain Vaillant, c'est la parodie, hein, c'est le constat que vous faites. Qu'est-ce que ça raconte de l'ère du temps ?
Oh, la parodie, c'est pour le coup, c'est un rire proprement médiatique. La parodie consiste à imiter pour en rire. Or, par définition, le média, sa fonction, c'est la représentation du réel. Donc il suffit d'un tout petit quelque chose pour que le média devienne parodique. Et dès le 19e siècle, on a des journaux qui parlent sérieusement du monde et qui font aussi de la parodie du monde et qui font aussi de la parodie d'eux-mêmes. Et l'auto-parodie médiatique est aussi quelque chose qui existe depuis deux siècles.
Donc il existe bien un rire médiatique qui se distingue du rire du quotidien.
Ce qui change dans le rire du quotidien, c'est qu'il y a l'interaction entre deux personnes physiquement présentes l'une à l'autre. Et donc le média institue une sorte de distance, déréalise l'autre, ce qui crée une situation singulière dont bénéficient aussi les réseaux sociaux, puisqu'il y a bien interaction, communication, mais il n'y a pas non plus présence physique.
Alors l'art du contre-pied est souvent très efficace hein, quand il s'agit de faire rire. Voyez Blanche Gardin à la cérémonie des Césars.
Dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde, les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Et par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier, je pense, assez vite. C'est est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles? Parce que c'est-à-dire que si on n'a plus le droit, alors il faudra apprendre des textes. Faudra passer des castings et on n'a pas le temps.
Est-ce qu'on ne peut pas se rapprocher là de l'esprit canal dont vous parlez dans votre livre également, Alain Vaillant, et qui marque l'histoire du rire français, selon vous ?
Oui, enfin, ce qui est surtout frappant là et qui ressemble beaucoup à l'extrait des proches que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est on dit quelque chose de drôle mais d'agressif en face des personnes, parce que là, le public est concerné. Et on retrouve cette sorte de frétillement d'agressivité du rire qui est extraordinairement excitant.
Vous voulez dire que c'est d'autant plus drôle parce qu'on sait que ceux qui sont devant concernés. Blanche Gardin sont concernés.
D'une manière ou d'une autre, oui, oui, essentiellement.
C'est une histoire de pacte entre celui qui raconte la blague et celui qui l'écoute.
Oui, et ça implique que c'est très différent si on fait une blague sur quelqu'un qui n'est pas là. Dès lors qu'on blague avec l'autre et sur l'autre et qu'il est en face, il y a une sorte de dialogue qui est institué et qui permet de ne pas aller trop loin. Le problème est lorsque on tape sur l'autre, sur l'étranger, etc.
Pourquoi écrivez-vous que le rire est précaire, Alain Vaillant ?
Le rire est précaire de façon générale parce qu'il est toujours menacé par le sérieux, il est toujours menacé par le danger, par l'agression. Regardez, c'est le rire de l'enfant, les parents se cachent, ils se montrent, ils rient, mais c'est toute la précarité de la condition humaine qui est signifiée par ce rire. Donc il y a une précarité qui est constitutive, qui est anthropologique, et il y a une précarité aussi dans nos sociétés, dans la mesure où si tout le monde se met à rire, et si le rire devient une sorte de code dans la relation sociale, ce qui est un peu le cas maintenant à cause de la place du rire dans la culture médiatique, c'est la fonction même du rire qui est menacée en quelque sorte. Il m'arrive de dire sous forme de plaisanterie que la seule chose drôle qui restera bientôt, c'est d'être sérieux, justement.
Et d'ailleurs, vous insistez au tout début de votre livre sur la fonction biologique du rire. Je vous cite, « Le rire est aussi nécessaire à l'homme que l'eau ou la nourriture. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que dans la masse, il y ait à boire et à manger. » C'est biologique. C'est chose d'aussi nécessaire que de boire.
C'est anthropologique, c'est même animal, même si les formes de rire animal sont évidemment différentes. Mais oui, c'est quelque chose d'absolument vital. Et on rit le plus souvent pour rien. On a besoin de rire. C'est un spécialiste américain qui avait calculé que 75% des rires entre les personnes n'avaient strictement aucun objet. Et si vous pensez le nombre de fois où vous esquissez un rire, un sourire, une sorte de quelque chose qui ressemble au rire dans votre vie sociale, c'est absolument immense et c'est à peu près sans objet.
75% des choses qui nous font rire n'ont pas lieu d'être, ne sont...
Voilà, c'est juste...
J'aurais du mal à y croire.
Non, mais vous croisez quelqu'un, vous faites un sourire immédiatement, voilà, vous me souriez, vous ne souriez bien pas à moi. C'est, voilà, c'est, bon. Le rire, c'est la même chose. C'est une sorte de pacification des relations entre les personnes. Et c'est souvent ce que je dis, si on rit si souvent dans les villes, si le rire est un phénomène urbain, c'est que si on ne riait pas chaque fois qu'on croise une personne un petit peu bizarre dans la rue, on passait son temps à se battre, à être en danger. Donc le rire est absolument nécessaire pour produire ce relâchement qui est réellement vital.
Alors pour en revenir à ce point des proches que j'évoquais tout à l'heure, vous parlez, vous, clairement d'un envahissement de l'humour dans les médias aujourd'hui, et pourtant cette idée récurrente qu'on ne peut plus rien dire, elle est présente. C'est pas contradictoire, ça, Alain
Vaillant ? Non, c'est la conséquence de ce que je viens de dire, c'est que c'est pas grave si on ne dit rien, l'essentiel c'est de rire. Le rire dans nos sociétés, je dirais, a une fonction essentiellement économique. Il n'y a pas de publicité sans rire, il n'y a pas de chaîne de télévision et de radio sans rire, etc. Notre société est envahie par le rire, c'est le rire qui permet l'acte de consommation, qui rassure dans nos sociétés de consommation. Et donc c'est le, je dirais, le sang qui irrigue notre société du spectacle, c'est le rire. Peu importe si le rire n'a pas d'objet. Et justement, c'est pourquoi le rire est précaire, c'est qu'on peut arriver à une situation où cette fonction, je dirais, sociale du rire va l'emporter sur une vraie culture artistique du rire. Si je peux ajouter un mot sur Desproges par rapport à ce que vous avez dit au début, Desproges, très vite, a eu conscience de créer une œuvre. C'était un créateur, c'était un écrivain du rire, un artiste du rire, et je pense qu'il a eu très vite conscience que quelque chose se passait dans ce qu'il produisait, et je pense qu'il est très heureux, comme tout créateur d'œuvres, des hommages, même pas tout à fait pertinents dont il bénéficie aujourd'hui.
À ce titre-là, je recommande vivement aux auditeurs le replay d'un documentaire qui est passé dimanche matin sur France 5, qui était intitulé « Desproges, une plume dans le culte », et qui donc fait sport portrait de Desproges en écrivain, bien qu'il n'aimait pas le terme d'écrivain, il se définissait comme un écriveur. Et c'est très différent. Vous parliez de pub à l'instant, Alain Vaillant. J'aimerais vous faire entendre quelque chose qui nous fait beaucoup rire dans le bureau de l'Instant M. Ce sont des chevaux qui se bidonnent. Voilà, c'est tout. Hein. C'est une pub télé, une pub pour une voiture. Un monsieur qui tente de se garer avec un van pour chevaux à l'arrière de sa bagnole. Il n'y arrive pas et ça fait beaucoup rire les chevaux qui sont dans le champ d'à côté. C'est très bête, mais c'est très efficace. Et ça rejoint un enjeu essentiel de l'humour aujourd'hui, c'est l'enjeu économique, hein, tout simplement.
Oui, et ça, c'est aussi l'illustration du procédé fondamental du rire, c'est toujours l'incongruité. C'est la conflagration, alors de différentes manières, mais il n'y a pas de rire sans incongruité. Toute incongruité n'est pas comique, en revanche.
Il y a quelque chose de récent dans cette idée que pour vendre, il faut faire rire aujourd'hui. Vous datez ce phénomène ?
Ce qui est sûr, c'est que l'émergence des cultures du rire est contemporaine aussi de la constitution des sociétés marchandes. Il y a quelque chose de consubstantiel entre l'échange marchand et le rire, comme je le dis sous forme de pour schématiser, dans les sociétés traditionnelles, c'était le combat, l'affrontement, on se tape dessus, on se tue. Lorsque l'on décide de gérer les rapports de force par une transaction économique, on décide de pacifier l'échange, et le rire signale cette pacification. Et donc, depuis la Grèce antique, depuis les cités italiennes de la Renaissance, depuis le XIXe siècle, le rire est lié à la marchandisation.
Il me semble indispensable de conclure en citant Pierre Desproges, il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Je recommande d'ailleurs ce livre à tout le monde, édition intégrale des réquisitoires du tribunal des flagrants délires, préface signée François Morel. C'est une coédition entre Le Seuil et France Inter, et la soirée spéciale Desproges, c'est donc ce soir à partir de 20h sur Inter avec Antoine Decaune. Merci beaucoup Alain Vaillant.
C'est
la civilisation du rire aux éditions CNRS. Très belle journée à vous